docteur, le type dit professeur. Quand par contre tu dis je suis rien, tu permets à Dieu d'entrer en toi, tu deviens divin. Et qui dit Anochi, Esav. Et nous on baigne dans le monde de Esav, alors on est influencé. Ce show dédié pour la Refouah Shlema, la guérison complète et rapide de Noar, Moshe, Michael, Gérard, Ben, Laetitia, Rivka, Bezrat Hashem. Ok, chers amis, peut-être le dernier cours de l'histoire, si ma chère revient, comme on espère, ce mois de Nissan. Sinon, on reprend après, Bineder. Peut-être même cours aussi après, ma chère nous dira de continuer, mais ça m'étonnerait. La question de Zacharie.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'humilité ?
L'humilité. J'ai l'habitude de dire l'humilité de Rona Levracha, des mémoires bénies. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Quand je posais la question au rabbin Sonaba Shaoul, Zanzal, qui était le grand de la génération, il était extrêmement humble. Une fois, il attendait le bus s'arrête, et le conducteur lui jette une serviette, tiens, monte-moi s'il te plaît, nettoie le pare-brise. Et le rave monte sur le pare-choc, comme ça, comme un nettoie le pare-brise. Ils sont, ah, quoi d'arrêt, ils sont inondés. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a demandé de le nettoyer le. Je ne sentais pas qu'il y avait quelque chose, rien du tout. Ou bien j'ai vu aussi dernièrement le Rav Chaim Kanievski. Je ne sais plus exactement, mais on voit une humilité, comme si je suis rien de plus que quelqu'un d'autre. Et Moshe Rabbeinu, quand la Torah vante ses qualités, elle vante une seule qualité, c'est l'homme le plus humble qu'il y avait sur terre. Alors je pose la question au Rav Ben Sanaba Shaoul. Quadarav, comment on fait pour avoir l'humilité? Il m'a dit, je ne peux pas parler d'une chose que je ne connais pas. D'abord, c'est une très bonne réponse, humble. C'est-à-dire que c'est une chose qui est très très loin de nous. Alors on va parler autrement, on va dire comment être moins orgueilleux. Parce que l'antithèse de l'humilité, c'est l'orgueil. Et l'orgueil nous fait beaucoup beaucoup de problèmes. Dans les livres de Moussard, c'est écrit que l'orgueil et l'humilité, donc en bien et en mal et en bien, sont en fait la source de toutes les mauvaises midotes. L'orgueil, et là surtout toutes les bonnes midotes, c'est l'humilité. Quand quelqu'un est humble, alors il ne va pas s'énerver. Il ne va pas prendre au sérieux les pulsions qu'il a. C'est un, se dire je ne suis rien. Donc maintenant, il a envie d'un chocolat, d'accord? Il a envie de regarder une fille, il a envie de dormir, d'accord? Si on l'empêche de faire cela, l'ego réagit. Mais si lui, son ego n'est pas là, aucun problème. Donc la source de toutes les bonnes midotes, c'est l'humilité. Et la source de toutes les mauvaises midotes, c'est l'ego, l'orgueil. C'est quoi la question? Comment travailler pour avoir l'humilité? C'était quoi la question?
Oui.
Comment y arriver? Alors je parle pas en connaissance de cause, parce que c'est des grands conversations qui étaient tellement humbles, vous ne savez pas comment le faire, c'est pas moi qui pourra vous dire comment le faire. Mais on va parler, on va essayer de travailler sur comment être un peu moins orgueilleux. On a des dizaines d'occasions par jour de travailler là-dessus. Surtout dans la relation avec le prochain. On aime se vanter. Moi, je. Quelqu'un se vante. Tu dis moi aussi. Ne dis pas moi aussi. C'est extrêmement difficile. Parce qu'on a l'impression que si lui, il est, et moi, je ne dis pas que moi, je, alors c'est comme si je ne suis pas. À ce moment, on peut penser à une chose que dit Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh, toute la Kabbalah, d'accord, basée dessus, elle dit, celui qui se vante, il vaut rien. Il a rien, il a rien, il est vide. Et les sages Israël dans la Gemara, ils ont dit aussi, celui qui se vante, à quoi il ressemble? À une amphore dans laquelle il y a une seule pièce. Quand on la secoue, elle fait kish-kish. Kish-kish, c'est en araméen, shklong, shklong. D'accord? En français, shklong, on traduit en arabéen, kish-kish. Tu secoues l'amphore, on entend la pièce shling, shling, d'accord? Quand elle est pleine de pièces, tu la fermes, tu la secoues, qu'est-ce que tu entends? Rien. Quelqu'un qui est plein, quelqu'un qui a une richesse intérieure, quelqu'un qui a une proximité de Dieu, il n'a pas besoin de la reconnaissance de l'autre pour comprendre qu'il est. Je parle de haut niveau, ce que je dis est très simple, mais on est loin de cela. L'homme a extrêmement besoin de la reconnaissance des autres. Mais c'est un signe de faiblesse et de vide. Parce que c'est jamais la reconnaissance de l'autre qui va vraiment fixer que je suis quelque chose. Admettons que j'ai une valeur. Les autres ne la reconnaissent pas. Alors à cause de ça, je n'ai pas de valeur. Non, ils ne la reconnaissent pas parce qu'ils se trompent, ils ne se rendent pas compte de ce qui est vraiment valable. D'accord? Et le contraire. Admettons que j'ai aucune valeur, mais toutes les journées, on me fait des salam aleik. Parce que par exemple, j'ai de l'argent, ou j'ai un titre, d'accord? Une fois, je crois que Ravad s'est raconté, il était à l'hôpital et il demande à un médecin, docteur, le type lui dit, professeur. Ah, déjà pour le penser, il faut être super, mais encore le dire, là, il exige un cavode qui n'est pas. Je m'excuse pour tous les professeurs, d'accord, mais Stapler disait que les gens croient que les petits médecins savent peu, les grands médecins savent beaucoup, les petits médecins savent rien, et les grands médecins savent peu. Tu voulais poser une question?
Oui. Des fois, par exemple, nos proches, nos parents, ou même, j'imagine, pour la femme, etc., ça a une importance plus grande de leur avis, dans ce qu'ils pensent. Ou s'ils sont, on va dire, contre notre vision, ça va nous impacter plus.
Il n'y a pas de quoi nous impacter. Je ne comprends pas, c'est pas le bon Dieu. Ton père, ta mère, ta femme, les enfants, l'entourage, c'est eux qui vont fixer quelle est ta valeur. Comment? Et d'autant plus s'ils ont une vision contraire à la Torah. Il faut leur faire plaisir. Jamais de la vie, ils sont à côté de la plaque. C'est vrai que ça a une influence. Le Rambam dit qu'il faut s'éloigner des gens qui sont loin de Torah. Parce qu'on est influencé en mal par eux. Et on est très très influencé. Mais comprendre que ça n'a aucun sens. Ma valeur n'est pas fixée par le regard des autres. Il faut bien s'enfoncer ça dans le s'en imprégner, parce qu'on a besoin, toute la journée, on demande, dis que je suis quelqu'un. Et si quelqu'un a dit que j'étais bien, qu'est-ce que je suis content. Quelqu'un a fait, j'ai dit quelque chose, il a répondu, toute la journée je suis content. Mais c'est des bêtises, on est d'accord que c'est des bêtises. D'accord? Voilà, ça prouve à quel point nous sommes vides. On a besoin de reconnaissance. Alors comment faire? Il faut commencer à s'inculquer qu'on a besoin d'une seule reconnaissance, celle d'Hachem. Et savoir qu'Hachem nous aime. Et comme je dis dernièrement souvent dans les cours, c'est écrit dans la Mishnah de Sanhedrin, pourquoi Shubhu n'a créé le premier homme seul? Pour que chacun dise, le monde entier a été créé pour moi. Dieu a créé toute la terre, tout l'univers. 13,7 milliards d'années-lumière pour un seul homme. Pourquoi elle aurait pu créer 8 milliards d'un coup? Pour que chacun dise, le monde entier a été créé rien que pour moi. Donc tu es aimé par Hachem. À quoi tu vas maintenant aller supplier, de façon bête, d'accord, un petit compliment d'un autre qui vaut rien et qui très souvent, il est mensonger. Très souvent mensonger. Surtout les gens qui ont de l'argent, on leur fait des salam alek, quoi. T'es quelqu'un parce que t'es de l'argent, tu as de l'argent. Peut-être un grand magouilleur, un type super malhonnête. Il y a des gens riches qui sont honnêtes, mais il n'y en a pas beaucoup. D'accord?
Par exemple, entre le mari et sa femme, on a toujours dit que c'est important entre nous de faire des compliments.
Oui, alors vu que nous sommes à un niveau tellement nul, et vu que ça fait plaisir quand on nous dit des compliments, donc entre l'homme et la femme, il faut abonder de compliments. Et toi aussi? Il ne faut pas que tu demandes, mais en faire aux gens énormément. Oui, mais alors je ne rends pas service. C'est vrai. Alors Israël Salanter, qui était le grand rabbin qui a parlé beaucoup des relations entre l'homme et son prochain, il a dit, je ne dois pas m'occuper de Olam Haba de l'autre, ou m'occuper de Olam Hazé de l'autre. Olam Haba, il faut que je fasse une grimace, c'est un pauvre type, d'accord? Ça lui fera du mal, il aura plus de Olam Haba. Mais je n'ai pas le droit de faire ça, je fais mal. Alors si quelqu'un va commencer à penser, je dois m'occuper de Olam Haba des gens, il sera méchant avec tout le monde. Se disant que quand ils vont souffrir, quand je passe, c'est bien, parce que plus on souffre, plus on a de Olam Haba. D'accord? Il m'a dit que le mérite des souffrances est énorme. Alors tiens, je te fais un peu souffrir, dis-moi merci. Ça ne marche pas comme ça. On doit penser à Olam Hazé des gens. Aussi Olam Haba, dans la mesure si on peut les aider à faire tchouva, les guider sur la bonne voie, oui. Mais pas penser que si maintenant je fais du kavod, alors je l'enfonce. Pas penser que je fais du chesed maintenant, je l'enfonce. Au contraire. Hachem veut que l'homme se comporte avec son prochain avec beaucoup, 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 beaucoup d'honneur. Énormément. Ah, quand je fais de l'honneur au type, alors je l'enfonce. Oui, c'est vrai, mais c'est pas ton affaire. C'est son affaire. Les grands de Torah, l'obligation de leur faire beaucoup d'honneur. Alors, ils doivent se battre contre un effet terrible, se dire que je suis nul. Mais quand on leur fait de l'honneur toute la journée, ça peut, il peut avoir une petite pensée. Ça aussi, même la pensée, elle est interdite. Même la pensée, elle est pas saoule, elle est fausse, d'accord. C'est du mensonge, c'est du mensonge. Dieu t'a tout donné, de quoi tu te vantes? De quoi tu te vantes? Qu'est-ce que tu es? Non, mais je suis, j'ai quoi? Le « je » déjà de ta phrase « je suis », c'est Dieu qui l'a fait. Tu peux encore continuer à dire quelque chose? On n'est rien. Aïe, 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 mais on a des milliards d'années-lumière de s'en rendre compte. Donc, le travail sur nous, t'as rien. Vous me direz, mais à ce moment-là, j'aurais plus aucune confiance en moi. Alors, j'en ai parlé souvent déjà ici. Il n'y a pas de quoi avoir confiance en nous, parce qu'on n'est rien. Alors, vous me direz, je ne peux plus rien faire. Non, tu auras confiance en Dieu. Ceux qui ont confiance en Dieu, il est Goldorak, il est Superman, il est, je ne sais pas comment on l'appelait, tous les tirs des gens, Zorro, d'accord, de notre époque. D'accord? Il est fort! Pas parce qu'il pense qu'il est. Il dit, je suis rien. Le Maharal de Prague, il dit comme ça. Quand quelqu'un pense qu'il est, alors quelle est l'amplitude de son être? Allez, t'as 1 million, t'as 2 millions, t'as 1 milliard, t'as 10 milliards, t'as 3 banques, t'as 100 banques, d'accord? Ok, alors tu balades comme ça dans la rue. Par rapport à Dieu, qu'est-ce que t'es? Choum d'avoir. Rien, rien de rien. Quand par contre tu dis, je suis rien, tu permets à Dieu d'entrer en toi. Tu deviens divin. Combien ça vaut divin? Le monde, il est rien par rapport à divin. Donc quand quelqu'un, il sent qu'il est rien, il laisse la shrina, la présence divine, rentrer en lui et il devient infini. Et la Gemara dit que quand quelqu'un est orgueilleux, il repousse l'épée de la shrina. Il dit Dieu, la Gemara dit que la shrina dit, lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même monde. Il ne laisse pas de place. Il prend tout. Il prend tout. T'imagines, c'est terrible. Mais c'est hélas le cas de beaucoup, beaucoup de gens. Et comme je dis, on a tous des malades à ce niveau-là. Et on va essayer de se soigner un peu plus. Oui.
On peut demander à quelqu'un d'arrêter un peu de faire du kavod.
Oui, absolument. Il y avait un cas une fois, il y avait un grand sage. Et il s'est marié. Et sa femme était terrible. Je crois qu'il y avait des gens qui venaient chez lui. Elle sortait de la cuisine, venait, elle l'insultait, elle le tirait de truc, critiquait en public devant tout le monde. Et quand il est mort, après 50 ans, d'accord, alors elle vient à l'enterrement et c'est un très grand sadique. Et tout le monde rigole parce qu'on à quel point le critique. Elle dit, bah, sachez que lorsqu'on a fait notre chidour, il a posé une condition, que chaque fois qu'il y aurait des gens qui viendraient chez moi à la maison, je serais obligé, moi, d'aller et le critiquer en public. Et j'ai accepté de faire ça. Je sais malgré moi, c'est lui qui m'a demandé. Donc on peut. Tu peux? Bien qu'on sait, on sait que c'est factice. Regarde, quelqu'un de très riche, qui n'est pas idiot, et tout le monde autour de lui fait des salamalek. Il sait très bien que c'est de la comédie, chacun a un intérêt là-dedans. Ça lui fait plaisir? Ça lui fait plaisir. Il a besoin de ça. Il s'est addicté à ça. Il sait que c'est un mensonge. C'est vraiment comme le pétard, d'accord? Le type, il est addicté à son pétard, tout, il sait qu'il est en train de se bousiller, ça bousille les neurones, les machins, tout ça, mais je peux pas sans ça.
Quand c'est trop, ça fait du mal, genre.
Très bien, c'est fantastique, trop. Il y en a qui diront c'est pas assez. Qui dit c'est trop? Je connais pas, moi je connais des gens qui disent que c'est pas assez.
Parce que je sais qu'après ça va me bousiller, quoi. Enfin,
très bien, excellent, fantastique, bien sûr, tu lui dis moins. Il faut lui dire moins. Ça ne nous rend pas service, ça ne nous rend pas service du tout. Mais ça demande du travail. Un rabbin qui était parti faire une tournée en Amérique, je ne sais plus qui c'était. Un des grands rabbins en Europe. Et son fils était avec lui. Et il présentait le Kvod arabe, machin. Il faisait des compliments extraordinaires sur son père. Le soir, le père revient à la maison et se met à vomir. Son fils dit, tout va bien, j'en peux plus. Tout ce que tu as dit sur moi, toutes ces choses-là, burk, d'accord. Bon, c'est un niveau, hein. Un autre, il va dormir avec le sourire. Il sait que c'est pas vrai. Mais ça fait plaisir que les gens, ils ont dit ça. Hein? Aïe, 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 le monde du mensonge dans lequel nous sommes. Donc, travailler là-dessus, se répéter ces choses sans cesse. Arriver à ne pas se vanter, arriver à ne pas s'énerver, arriver quand quelqu'un m'a blessé, passer outre. Tout ça, ça provient de la hanava, de l'humilité. Tu verras, tu rentres maintenant à la maison, tu vas rencontrer les copains, chacun parle. On va boire un pot ensemble, d'accord, un endroit cachère. Et chacun parle, tu as besoin du micro quelques minutes. Lui a parlé, tu parles. Rien dire. Rien dire. Je raconte une histoire que je racontais souvent, mais elle est tellement belle, extraordinaire. Il y a peut-être 150 ans, le grand rabbin de toute l'Europe, c'était le rabbin Chaim de Brisk. Et il y a eu une assemblée des rabbins chez lui à la maison. Ils sont venus de toute l'Europe chez lui à la maison. Et bon, il parle aussi de ça. Puis après, il parle un peu du Devrait Torah. Il dit, écoutez, je vous raconte, je vais lire maintenant une kushia, une difficulté de compréhension de la Gemara. Et je vous donne le tirutz que j'ai trouvé, celui de mon fils. Et pose la question, personne ne répond. Chacun donne, ouais, non, c'est pas bon, t'as qu'à. Pendant une demi-heure comme ça, tout le monde essaie de répondre. Rien du tout. Ok, je vous donne ma réponse. Extraordinaire, tout le monde applaudit. Celle de mon fils, tout le monde applaudit. Ok, bah ou Hachem. Après, tout le monde rentre chez soi. Alors, de Brisk, il s'est dit, c'est bizarre. Il y avait ici le Rav Yitzhak Blazer. C'était un grand sage d'Israël, mais c'était un grand du Moussar. Il travaillait sur lui-même énormément pour le Moussar. Il n'a rien dit toute la soirée. Je me demande si ce type-là, il est vraiment aussi grand que ce qu'on dit. Ah, j'ai son bouquin ici, Prix Yitzhak. Amène-le-moi, il demande son fils. Il ouvre là-bas justement à ce passage de la Gemara, hein, voir ce qu'il en parle. Il voit que Rav Yitzhak Blazer a posé la question que lui a posée, a donné les deux réponses, celle du père, celle du fils. Vous imaginez, t'es avec tous les grands d'Israël. T'as la réponse. Tout le monde dit, il n'y a personne qui trouve la réponse. Et pour finir, c'est le Rav qui donne ta réponse et le fils qui donne ta réponse. Ouais, j'en ai parlé dans mon livre. Même, dis pas plus que cela. Rien. Ça, ça s'appelle un gibor, un héros. Phénoménal. Il repart à la maison, il sait que peut-être maintenant tout le monde croit qu'il est nul. Il n'a pas ouvert la bouche. Alors Brisk a cru qu'il était nul. C'est quoi ça? Ça, c'est une force intérieure. Je n'ai pas besoin de reconnaissance des autres pour savoir qui je suis. J'ai besoin de reconnaissance d'Hachem. Hachem sait que j'ai trouvé ce tirot. J'ai posé la question, j'ai deux bonnes réponses. En plus, le Rav de Brisk a une bonne réponse. Je suis content, Baruch Hachem. J'ai besoin d'aller dire, mon cas, c'est moi. Bon, on est tous comme ça, mais c'est tellement ridicule. Je raconte aussi une autre histoire que j'ai racontée ici déjà souvent. Ma femme me raconte qu'un jour, elle ramène à la maison deux de nos petits-fils. Ils sont sur le siège arrière de la voiture. Ils ne savent pas encore parler. Ils savent dire deux ou trois mots. Ils savent dire non et ils savent dire Annie, moi. Alors elle dit que dans toute la route, un dit Annie. L'autre dit Lo, Annie, non, moi. L'autre répond « Lo, Annie, non, moi !» Et l'autre répond « Lo, Annie, non, moi !» C'est pas le monde que nous voyons devant nous sans cesse. Nous tous, on est comme ça. Plus finement, « Toi, non, moi, oui. » Inverser. Inverser ça. « Toi, oui, moi, non !» Celui qui fait ça, c'est une comédie. Mais on devrait tendre vers cela. Travailler dans ce sens-là. Et le seul moyen à comprendre qu'on n'a pas besoin de la reconnaissance des autres, on a besoin de la reconnaissance d'Hachem et on l'a. Et dès lors, je n'ai pas besoin maintenant de me remplir par les autres. D'autant plus que ça ne remplit pas. Vu que la reconnaissance des autres, en fait, elle ne vaut rien. Donc je ne suis pas rempli par cela. Donc j'en demande toujours plus. Encore plus qu'à vous, encore plus qu'à tout ce que. Tellement de gens, toutes les études qu'ils font. Bac plus, il y a de quoi se tirer une balle dans la tête. D'accord? Tout ce que les gens font de l'argent, etc. Mais plus, et encore. D'habitude, il y a une seule raison à cela. Bon, aussi qu'on aimerait des belles vacances, aussi qu'on aimerait une belle voiture. Non, les belles voitures, c'est déjà plus ça, d'accord. C'est kavod, d'accord. Le kavod. Le kavod. Je suis quelqu'un. Reconnaissez-moi que je suis quelqu'un. Le monde de la Torah aussi. Le monde de la Torah aussi, c'est clair. Arrivez à étudier les Shem Shamaim. À votre niveau, Baruch Hashem, c'est bien. Vous êtes tellement nul, et moi aussi, que vous étudiez, c'est Shem Shamaim. Mais après, quand tu commences à avoir un niveau déjà, ah, j'ai un niveau, je suis quelqu'un, pauvre type. Je parle de nous, hein. Je parle de nous. C'est là que nous sommes. Mais sans rendre compte, essayer de travailler un peu plus. De temps en temps, voilà, s'écraser, pas s'énerver, pas se vanter, pas. Comme un petit enfant. Comme un petit enfant, des gens vus. Alors, Israël Salin raconte qu'un type, il agonisait. Il était sur son lit en train d'agoniser. Des enfants sont venus avec une échelle, commençaient à taper sur la fenêtre comme ça. Partez. Il tapait comme ça. Il s'est levé du lit. Agoniser, c'est-à-dire, tu ne veux pas bouger. Il ne faut même pas te toucher tellement tu es faible. Il s'est levé, il ouvre la fenêtre, il leur a crié dessus. Il se remet au lit et il est mort. Tu comprends? Dans quelques secondes, tu quittes ce monde, tu vas dans l'amaba, prépare-toi. Tu t'énerves encore contre des enfants. Ça provient de l'orgueil. On a fait guili guili guili, on le dérange, guili 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 guili, il ne peut pas supporter. Il a la force de se lever, crier dessus, et on va se recoucher et il meurt. Voilà un exemple de la bêtise que nous avons. Oui.
J'ai entendu une chita qui disait, il y a beaucoup de rabbins qui disent qu'il ne faut pas s'occuper de l'orgueil tout de suite, pour les débutants on va dire. Non, c'est pas, on doit pas travailler sur ça.
C'est vrai que pour les jeunes, au contraire, on va réveiller leur orgueil pour qu'ils avancent plus vite. C'est marqué « Kinat sofrim tarbe chokhma ». La jalousie des sofrim, des étudiants Torah, elle amplifie la sagesse. Pourquoi on t'éduit à deux? On t'éduit à deux parce que si tu ne comprends pas, lui l'a compris, tu te sens diminué. Donc tu vas faire plus d'efforts pour comprendre. Après, il donne son avis, tu vas donner ton avis. Chacun va avoir raison. Ça provient de l'orgueil aussi. Néanmoins, c'est un orgueil, on va dire, qui est utilisé pour une bonne fin. Mais c'est vrai que c'est quand même pas l'idéal. Alors, on doit étudier comme ça, c'est comme ça qu'on dit, mais on doit étudier au bout d'un moment, pas pour montrer que j'ai raison, pour trouver la vérité, être amoureux de la vérité, et pas pour mon ego. C'est vrai que dans la jeunesse, on ne peut pas demander aux enfants de travailler sur l'humilité, ce n'est pas du tout adapté. Donc au contraire, on gonfle leur ego. Mais après, il faut faire un dégonflage de l'ego toute la vie. Hein.
Par exemple, pour nous, pour les Bachouba de notre âge.
Moi, je pense que vous pouvez travailler sans aucun problème là-dessus. Ah, vous avez déjà suffisamment de conscience pour comprendre ce que je suis en train de dire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le Ramban, il écrit une chose qui est très belle. Dans Igaret Ramban, dans la lettre, Armanide, donc, il a été expulsé d'Espagne, après la disputation de Barcelone. Il a écrit une lettre à sa famille en disant que tout le jour vous lirez cette lettre, alors vous serez protégé du ciel. Et là-bas, il dit qu'il ne faut pas s'énerver, et il ne faut pas s'enorgueillir. Il dit que l'orgueil, c'est l'habit d'Hachem. Comme est écrit, Hachem, Gehout, Lavesh, Lavesh, Lavesh Hachem, Orzit Hazar. Gehout, c'est l'orgueil. Lavesh, Dieu s'habille d'orgueil. Parce qu'effectivement, si quelqu'un a droit au kavod, c'est que Hachem. Hachem est l'achat kavod. Tout le kavod revient qu'à lui. Chaque fois que nous, on va prendre du kavod, quelque part, on vole l'habit d'Hachem et on le met sur nous. De quel droit tu dis que tu es quelqu'un alors que tu n'es rien, tu es créé par Hachem complètement? Ce coup de sympathique sur le dos, que je suis quelqu'un, au nom de quoi? C'est un voleur de kavod. Bon, c'est un niveau, hein. Ah, il faudrait se répéter ça toute la journée. Comment il s'appelle? Rabbi Levitas, dans un vote, il dit, je crois que c'est le seul endroit où c'est écrit dans un vote, mais od, me od, très très, eve, shfal ruach, soit très très bas, shfal ruach, l'esprit bas, très très, Kitikvat Adam, Rima, je me souviens bien, car l'espoir de l'homme, c'est Rima, c'est la pourriture. Qu'est-ce qui va rester de toi après? Mais od, très très bas. Hachem aime ça. Il aime l'humilité. Et les gens aiment l'humilité. Quand tu vois quelqu'un de humble, tu l'aimes tout de suite. Tu n'es plus en concurrence avec lui. La Navi miten hen, c'est marqué. Dieu donne hen, du charme aux gens qui sont humbles. Ils sont aimés. Quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un m'a dit une fois, il m'a dit un Tamil Chacham, un sage d'Israël, un érudit, c'est comme la DAF. Quand c'est bon, c'est bon. Mais quand il devient orgueilleux, c'est comme une DAF qui a tourné. C'est dégueulasse. D'accord? Et il y a des cas pareils. Il y a quelqu'un m'a écrit, qui a vu un Tamil Chacham, qui a tombé dessus pour X raisons, d'accord, mais de façon grossière, orgueilleuse. C'est Chilul Hashem. Chilul Hashem. Il y a un travail énorme à faire là-dessus. Mais Dieu, il aime tellement l'humilité. Le Stapler l'a dit, c'est marqué, la Gemara dans Rosh Hashanah, pas le 17, je me souviens bien, pour me vanter un peu, dit que, et pour finir, c'est faux des fois, quand je vérifie, d'accord, dit que, on verra pécha le shérit nachalato. Dieu passe outre le péché pour shérit nachalato, pour le reste de son héritage. La Gemara dit, pour qui il passe outre le péché, il efface le péché, à celui qui fait de lui chérit. Chérit, c'est un reste. T'es un reste. T'es un déchet, t'es rien du tout. Le Stapler, il a dit, combien c'est bon, regardez où il en était, combien c'est bon de se sentir un reste. Celui qui arrive à cela, il a tout gagné. L'amour de Dieu, la facilité dans l'étude, l'amour des gens, la réussite. Il est dans le vrai, il n'est pas dans le faux. Voilà, tout le contraire de Esav. Esav, il dit Anochi, je suis, c'est comme ça, c'est le terme qu'employait Dieu pour dire je suis. Alors on peut dire Ani Hashem, dans le premier commandement, il dit Anochi Hashem. Et qui dit Anochi ? Esav. Et nous, on baigne dans le monde de Esav, alors on est influencé, moi aussi. Oui.
Mais par rapport à ce que vous avez dit pour l'histoire du Tzadik qui s'est tué
ouais.
En public, etc., comment. Lui, il doit aussi avoir un impact sur les gens, vu que c'est un Talmid Chacham. Donc si tout le monde pense qu'il est nul, d'un côté, il va moins transmettre de Torah.
Hachem gère le monde. C'est marqué que celui qui poursuit le Kavod s'enfuit de lui. Et celui qui fuit le Kavod le poursuit. Donc au contraire, quelqu'un qui sera vraiment humble, il y en a qui sont vraiment humbles, mais disent le kavod ne vient pas. Alors une fois j'ai entendu quelqu'un qui a dit oui, parce qu'il regarde derrière pour voir le kavod il arrive ou pas. C'est un faux humble. Quelqu'un qui est vraiment humble, il sera aimé de tous. Il sera connu. Le kavod va le poursuivre. Donc t'en fais pas. On ne peut pas nous dire soit un rachat pour que tu aies un impact chez les gens. Soit un tzaddik. Et l'impact des gens, c'est pas ton affaire. Laisse au bon Dieu faire ça. Ok? Ah, c'était un Bezrat Hashem, un bon Benes Ben à tout le monde. Oui. Revenu très humble à Yeshiva Bezrat Hashem. Le Mashiach qui vient, c'est marqué humble sur un âne. Pourquoi sur un âne? Le sens simple, pas sur un cheval. Un cheval, c'est trop cavote, d'accord? Mashiach de Dieu, son nom apparaît dans le deuxième verset de Bereshit. C'est marqué l'esprit de Dieu planait sur la surface des eaux, esprit de Dieu. C'est marqué le nom du Mashiach. Il vient sur un âne. Aujourd'hui, on dirait sur une teuf-teuf, une, je sais pas moi, quelle est la voiture, une Fiat 124 d'il y a 40 ans, d'accord? Voilà. Comme ça que vient le Mashiach, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Elohim, Amen, Amen.